Bonjour à tous, vous êtes sur la Radium dans l'émission Remue Ménage.
Bonjour Karine.
Bonjour.
Donc en fait, vous n'avez pas osé nous faire le Remue le Ménage.
Ah non, là, du coup, je me suis dit.
Bonjour à tous, c'est Julie.
Bonjour, c'est Christian.
Bonjour, c'est Hervé.
Bonjour, c'est Leïla.
Bonjour, c'est Guillaume à la technique.
Bonjour, c'est Sylvain.
Bonjour, c'est Sophie. Bonjour à tous. Ben voilà, nous voilà de nouveau pour une nouvelle session d'émission. C'est la rentrée, on est tous là avec des cartables dans nos têtes. Voilà, on est tous contents de vous retrouver, on est contents de se retrouver. Et puis voilà, ben on va démarrer l'émission avec un sujet chaud bouillant. Voilà, le réchauffement climatique. Hein, c'est Karine qui avait envie de parler de ça. Donc Karine, je vous passe la parole.
Oui, c'est vrai qu'en ce moment, le temps est un peu déréglé, là, avec le réchauffement climatique, ou bien il fait trop chaud, ou bien il fait trop froid. Après, ça provoque des tempêtes, là, des ouragans, là. C'est vrai que là, on commence à sentir là, le dérèglement, là, de... Ça ne fait pas comme ça faisait là, avant, quand même.
Oui, j'ai lu que depuis 50 ans, on a 5 fois plus de trucs climatiques qui arrivent, en fait, des événements climatiques qui arrivent sur la planète.
Et du coup, ça vous inquiète, ça ?
Enfin, ça m'inquiète pas spécialement, mais bon, c'est vrai que c'est... Des fois, ça peut... J'aurais pas trouvé le terme. C'est un peu... Ouais, ça, on se pose des questions quand même, du coup, sur le sujet, là. Déjà, le pôle Nord, je crois qu'avec le réchauffement climatique, ça a un peu dégelé je crois la banquise ou le...
Ou le permafrost.
Oui.
Mais cette nuit, il y a eu des inondations à Agen. Là. Il y a eu 1,20 mètre d'eau, je crois, sur les... Oui. Un mètre d'eau dans les rues.
Oui, dans le Gersin, il y a eu des dégâts apparemment.
À Agen aussi.
Ouais, ouais.
Et particulièrement la ville d'Agen, oui, effectivement. J'ai lu même 2 mètres d'eau dans les rues. Il est tombé 120 millimètres d'eau en 2 heures. Donc c'est énorme.
C'est l'équivalent d'un mois de pluie en 2 heures.
Ben, cette nuit, pour ceux qui ne dormaient pas, quand on entend effectivement la tempête qu'il y a eu, c'est quand même inquiétant parce que c'est des réactions climatiques assez extrêmes. Hein. Ouais. Et de toute façon, on l'a vu tout cet été avec les incendies, on l'a vu
avec les orages qu'on a eu au mois de juin aussi. On a eu des sacrés orages pendant un bon moment, plusieurs jours, que ça tombait des litres et des litres. C'était impressionnant.
On l'a vu aussi au Canada avec la vague de chaleur qui a fait 700 morts.
Ouais, c'est mondial, de toute façon, c'est normal.
Et oui, enfin, on n'a plus de climat tempéré parce qu'on est tout le temps dessus dans des extrêmes, effectivement, de chaud, de froid, de pluie.
Le matin,
on croit
qu'il fait froid, en fait, il fait chaud.
Et puis, l'être humain face à tout ça, là, à la météo, les trucs extrêmes, on n'y peut rien, quoi. On ne peut pas combattre une inondation, on ne peut pas combattre le vent, on peut s'en protéger, mais on est petit face à tout ça.
Mais il faudrait qu'on diminue nos relâchements de carbone dans l'atmosphère. Il faudrait que les compagnies pétrolières investissent un peu plus dans l'hydrogène, dans l'électrique, dans tout ça, et qu'on change de société.
Oui, je crois la jeune génération qui arrive, je pense qu'ils sont bien plus touchés.
Plus conscients de ça, oui.
Ouais.
Les jeunes de 10 ans, là, une dizaine d'années, ils s'en préoccupent.
Et puis à nous aussi de les sensibiliser, hein, et puis de les éduquer, et puis on est tous concernés, donc il faut accepter que c'est une réalité.
Ouais, mais le problème, c'est les lobbies pétroliers, tout ça, ils s'en foutent. Donc,
Après, c'est les cultures, c'est les cultures qui ont fait que les sols sont devenus
plus pauvres,
presque imperméables, et que du coup, ils n'absorbent plus. Donc,
et la déforestation aussi, toute la végétation retient les arbres. Si on rase tout pour faire des céréales, mais l'eau est ruisselle.
Sans aller sur les céréales, j'ai vu ce matin un article sur je ne sais plus trop quel magazine qui expliquait qu'il voulait détruire 1000 hectares de forêt pour implanter la plus grande station solaire d'Europe.
Ouais, puis les promoteurs, ils veulent mettre des routes partout, ils veulent reconstruire encore, bétonner.
Ouais. Même au niveau des cultures, j'ai regardé une émission en Alsace, il y a de plus en plus de cultures céréalières et de cultures du maïs. Et c'était un reportage sur les cigognes, et les cigognes ne trouvent plus à manger. Parce que voilà, il y a
après,
plus de prairies.
Le problème, c'est que les agriculteurs, il y en a, mais il y en a de moins en moins qui veulent faire ça.
Oui.
Et c'est quand même eux qui nourrissent.
Ouais, mais ils s'en sortent plus. Ils s'en sortent plus. C'est pour ça qu'il y en a de moins en moins qui veulent faire ça.
Alors, j'avais entendu un truc, bon, pour faire un peu d'humour. Les vaches contribueraient apparemment à l'empreinte carbone.
Par les P.
Oui.
Le P des vaches.
Oui, mais pas que. Parce que j'ai vu qu'il était question de leur mettre une espèce de masque, parce que c'est aussi l'air qu'elles rejettent. Il y a quelqu'un qui a inventé une espèce de masque, un peu comme on porte nous aujourd'hui, voilà, non, même, à des petits trous, je ne sais pas quoi. Christian, vous l'avez vu, ça. Ouais. Et c'est à l'étude, de mettre des masques aux vaches pour lutter contre l'empreinte carbone.
Quand elle rumine, elle dégage
Du CO2.
Elle dégage du CO2.
C'est ça, voilà. Ouais, c'est
et les masques qu'on porte, ça pollue aussi.
Ben là, on ne pollue plus, du coup.
Non, après,
on est tous masqués. Ouais. Oui, vous voulez dire, c'est le masque qui pollue.
Le masque en lui-même, quand il est jeté, oui.
Après, en France, ils veulent refaire venir, ils veulent faire un peu du Made in France. Et voilà, les médicaments qu'on prend, ils viennent de Chine, ils viennent
d'Inde.
De ce pays-là, d'Inde, ouais. Et ils veulent tout relocaliser.
Et voilà,
ça coûte
oui.
très cher. Parce que la main-d'œuvre, en France, elle est chère.
Alors, j'ai vu passer ce quoi qu'il en coûte, là.
Ça ne coûtera pas plus cher. Qui c'est qui en sait ? C'est fait en Inde. Il n'y aura pas d'effet carbone, il n'y aura pas plein de trucs.
Oui, et ça permettra l'emploi de remonter.
L'emploi en France.
C'est ça.
Eh bien, oui.
Après, on ne veut pas d'éolien. Donc, c'est le plus naturel. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire, à mettre des poteaux et...
Il y a du béton, il y a le fer...
Dans le temps, ils ne veulent plus en faire.
Non, mais dans le milieu de la France, il y en a plein, des champs entiers.
Il n'y en a pas assez.
Ouais, il faudrait faire de l'éolien au sort.
Il y en a plus que ce qu'il y a. Et ça ne pollue pas, ça. Tant qu'il ne pollue pas.
Ouais.
Bon.
Je sais pas si ça pollue pas, alors je me suis pas trop penché sur mais les gens qui habitent autour, il y a quand même pour eux une pollution sonore, une pollution visuelle, une pollution auditive, ça crée
des migraines,
des fréquences hertziennes, je sais pas quoi, où il y a des personnes qui sont sensibles à ça et qui ont des migraines. Après, effectivement, l'éolienne, il y a un système, alors c'est pas vraiment des éoliennes, mais c'est des roues comme ça qu'on mettrait dans les océans et qui utiliseraient les marées, en fait.
Oui.
Alors, ça, c'est un bon principe, mais pareil, combien ça coûte pour l'installer? Enfin, voilà, après, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On est dans un moment là où on crée, on innove, mais moi, je me questionne beaucoup, parce que j'ai lu aussi, mais tous ces véhicules électriques qui sont censés être...
C'est hyper polluant.
Voilà, écolo, mais qui finalement sont très polluants. Les batteries, combien de temps elles vont durer? Comment on va les recycler? Est-ce qu'on va en faire?
L'électricité qui sera nucléaire.
L'électricité nucléaire, voilà. Enfin, tout ça questionne. Hervé, il y a deux secondes, vous disiez qu'ils ont rasé tout un champ pour installer des panneaux photovoltaïques. Alors, c'est une bonne chose, mais pas qu'on rase.
Moi, j'ai pas dit ça.
C'était pas vous. C'était, je sais plus qui l'a dit. Mais tout ça, ça questionne malgré tout.
Et qu'est-ce qui...
On tourne en rond.
Qu'est-ce qui pollue sur une voiture électrique ?
La batterie.
Mais non, je recycle la batterie.
Je crois que pour l'instant, non, ils n'ont pas encore trouvé de solution.
Si, on la recycle.
Et alors, expliquez-nous, dites-nous si vous avez une solution, moi, ça m'intéresse. C'est-à-dire. Et parce que c'est du lithium, c'est à base de.
Il y a du lithium, du charbon, du. Tu vois quoi, après, comme matériau, dedans, comme une batterie normale. Mais après, ils la recyclent.
Il y a des acides.
Comme les batteries de vélo, toutes les batteries.
Mm-hmm. Alors, c'est recyclé comment ? C'est réutilisé comment, alors ?
Ils veulent le recycler, ils la broient, et après, ils s'en servent comme pour faire des routes, tout ça.
Mm-hmm. Je ne sais pas si tout est recyclable dans ces batteries, je ne suis pas sûr. Hein.
Tout n'est pas recyclable, ouais, il y a des matières technologiques qui sont très, très polluantes.
Et c'est-à-dire que ces matières-là, si elles sont enterrées, c'est des millions d'années, enfin des milliers d'années, je pense, avant que ça se dégrade. Si, ça se dégrade, donc c'est quand même une pollution.
C'est comme le lithium.
Oui, c'est ça, oui.
C'est comme le plastique, ça met des centaines d'années à se dégrader, et on en retrouve dans toute notre chaîne alimentaire.
Mais la voiture électrique, c'est moins polluante que toutes les voitures. Une voiture essence, diesel...
Une voiture à hydrogène serait moins polluante.
Une voiture électrique ? Tout le monde ne peut pas se payer une voiture
électrique. Guillaume, qu'est-ce que vous disiez ? Vous parliez de l'hydrogène.
Je parlais d'une voiture à hydrogène serait beaucoup moins polluante, étant donné qu'elle rejetterait juste de la vapeur d'eau.
Ouais, d'accord.
Toujours pareil.
Après, si on a une pénurie d'eau, comment on fait ?
Ça marche aussi avec l'eau de mer, il me semble.
Ils ont fait un train à hydrogène, pour moi.
Ouais.
Ils sont en train de rouler pour savoir ce qu'ils vont faire.
Oui, ils sont en train de voir pour les avions à hydrogène aussi.
Oui, les avions aussi.
Qui dit qu'il fera le cobaye, là, pour l'avion
Il y a un train qui est en action en Occitanie.
Bon, et ça fonctionne ?
Eh oui.
Ah, d'accord. Bon, donc, il y a quand même des...
Je ne sais pas jusqu'à quand, mais...
Oui.
Il y a de l'avancée. Je n'ai pas dit que tout était bon.
Bah, ce qu'il faut, c'est essayer de se tourner vers toutes les initiatives, voilà.
Oui.
Il y en a forcément. Hein.
Le plus polluant, c'est le diesel. Ça, le sait depuis 40 ans ou 50 ans. Je connaissais le diesel que ça pollue. Puis après, les essences, tout ça. Et après,
alors, le diesel, on m'a dit que les anciennes voitures des années 70-80, moi j'avais une voiture de mon grand-père. Au contrôle technique, on m'a dit qu'elle était moins polluante que les voitures actuelles parce que c'était des macro-particules. Que c'était
moins polluant que
les véhicules actuels. Bon.
Oui.
On s'aperçoit aussi de ce genre de choses.
Les pots d'échappement. Les pots d'échappement qui sont enfermés après.
Oui.
Ils sont très pollués.
Ouais.
Ils ont tout biaisé les études sur des pots catalytiques, là. Où en gros, ils étaient censés être sous les normes et quand ils ont refait les tests, ils sont aperçus qu'ils étaient au-dessus des normes.
Sylvain, on vous a pas entendu.
Ben, moi, je suis pas très optimiste. Hein. Je pense que c'est un peu foutu. Hein. Je veux pas vous affoler, mais j'ai vu, je suis plus sûr dans quelle émission, un spécialiste de l'écologie, on lui a demandé clairement si 100% par exemple de la... Alors je sais plus, c'était de la population mondiale, hein, pas que française, faisait les petits gestes écologiques et tout ça, ça ferait baisser que de 25 à maximum, grand maximum, 40% les émissions, parce que tout le reste, c'est la production d'énergie, c'est la voiture... Donc, comme ni la Chine, ni les États-Unis, ni la Russie, ni l'Inde n'ont envie de sacrifier leur développement économique pour arrêter la production de, enfin la consommation de charbon pour l'électricité, ben c'est un peu foutu, hein. On va pas se le cacher, hein. Même si on fait qu'on va faire, c'est un peu toujours pareil, on fait culpabiliser, on dirait faut pas prendre de bain, il faut pas prendre sa voiture, il faut ceci cela, mais c'est tellement minime. Mais même si on le faisait tous, ce serait même pas, et encore non. Si je me souviens de ce qu'il disait, c'est si on vivait tous comme Greta Thunberg, c'est-à-dire comme une extrémiste. Pas si on vivait tous, à dire de temps en temps, on peut prendre sa voiture. Non, non, si vraiment on vivait comme une extrémiste, ça ferait baisser que de maximum 40%. Et encore, il faudrait que ce soit toutes les 7 milliards d'êtres humains qui fassent ça.
Et ça, c'est pas gagné.
Donc c'est foutu. Hein, voilà, si... Si c'est pas en nous faisant culpabiliser nous et en mettant pas des normes pour les grandes entreprises, c'est foutu. Donc, et puis de toute façon, bon, ben, on en a bien profité, l'Occident, de se développer avec les mêmes énergies que les autres, et maintenant les autres veulent faire comme nous. On leur dit ah ben non, faut pas se développer comme ça. Et en plus, si on veut sacrifier, moi je suis pas spécialement pro-nucléaire, mais je suis pas du tout anti-nucléaire. Et du coup, même les énergies renouvelables, elles ont beaucoup d'inconvénients. Quand elles ne fonctionnent pas, il faut les remplacer par du charbon. Il y a, comme vous disiez, la pollution visuelle et autres des éoliennes. Apparemment, même les panneaux solaires, ce n'est pas l'idéal non plus, ne serait-ce que pour les composants qu'il y a. Donc, c'est un peu... À part de dire comme... des projets qui paraissent faramineux, mais qui peut-être seront d'actualité dans quelques décennies, comme disait Jeff Bezos, d'envoyer toutes les industries polluantes dans l'espace. C'est un peu, sachant que l'espace est déjà pollué parce qu'il y a plein de satellites qu'on n'utilise plus, qu'on a laissé là-haut. Bon, donc je sais pas, non, je suis pas spécialement optimiste, hein, parce que c'est un peu un combat où on a l'impression qu'il y a les méchants et les gentils, donc. Bon, c'est un peu...
C'est virus aussi.
Voilà, et puis...
Il y a plein de virus.
Donc... Voilà, et puis il faut voir...
C'est une chaîne sans fin.
Il faut voir comment on traite le vivant, il faut voir comment... Voilà, c'est bien gentil de dire, par exemple, on ne prend pas la voiture, mais comme en France, ils ont supprimé plein de petites lignes de train, on ne peut pas les prendre. Les petites lignes de train qui restent, c'est extrêmement cher. Enfin, je sais plus si c'est toujours le cas, mais il y a quelques temps, il y a quelques mois, en aller-retour sans aucune réduction, en aller-retour à Toulouse en train, c'était 30 €. Alors qu'en voiture, on est autour de... Et en voiture, on est autour de 15-20 €. Ouais. Et en bus, on est autour de 4 €. Donc, bon, ils sont bien gentils, mais l'écologie, c'est un sport de riche. Enfin, je trouve. C'est...
Et si on se met tous à prendre tous le bus?
Ben, si on se met tous à prendre le bus, il va falloir qu'il y ait plus de bus, donc qu'il y ait plus de d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, c'est toujours pareil, hein.
Bon, donc on va tous mourir. En fait, c'est ça.
Ah ben oui. Enfin, de toute façon,
un jour.
Comme il disait ce spécialiste, il disait la planète, elle s'en remettra. Après, l'espèce humaine, si elle s'en remet pas, ben, c'est notre problème.
Oui,
mais
bon,
la planète, elle vivra très bien sans nous et.
La nature reprendra ses droits.
Ah oui, ça c'est clair. Et même pendant le confinement, on disait, ah mais pendant le confinement, regardez, on a réussi à réduire. Ouais, on a réduit 7%. Donc c'est pas non plus extraordinaire. Et il faut se dire que nous, encore, on nous culpabilise à nous, en gros les Occidentaux. Parfois, bah, juste raison. Déjà, le nucléaire, quand on l'a fait, c'était quelque chose qu'on a fait pour sortir du pétrole après la crise de 73, la première crise pétrolière. Donc c'était dans une bonne optique, c'est d'être moins dépendant du pétrole de l'étranger. Et il faut savoir qu'il y a des pays comme la France, surtout la France, en fait, grâce au nucléaire, on émet beaucoup moins de CO2 que d'autres pays qui ne sont pas du tout au nucléaire. Parce que, par exemple, quand l'Allemagne a dit oh « non, on arrête le nucléaire parce que c'est dangereux », ben ouais, mais ils remplacent ça par du charbon. Donc toute la main fonctionne au charbon, la Pologne aussi... Et puis ça encore, c'est pas des gros, gros, gros pays, mais la Chine, voilà, tant que la Chine fait pas d'efforts, elle en fera pas. Et les États-Unis, c'est pareil. Bah, on peut faire ce qu'on veut. Hein.
Bon, il faudrait raser la Chine, planter des arbres,
ouais.
Faire quelques parkings pour nous,
ouais.
Peut-être.
Ah, mais oui, mais si on fait des, si on fait des parkings, ça fait de l'étalement urbain, donc ça fait moins de forêts. Enfin, c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. C'est des problèmes de riches, un peu, l'écologie. C'est-à-dire que si les riches faisaient, des efforts de dire, par exemple, j'accepte de payer une grosse taxe carbone sur l'aviation, parce que les riches polluent quand même plus que les pauvres, maintenant c'est prouvé. On pourrait, mais bon, ça veut dire quoi la taxe carbone, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec cette taxe carbone si, par exemple, il dit que j'augmente de 20% mon billet d'avion parce que j'ai les moyens. Ouais, on en fait quoi, cette taxe carbone? Le carbone qui est parti, on ne peut pas le rattraper. Hein. Et c'est irréversible, en plus. Donc, bon, je ne suis pas très optimiste.
Je propose de nouvelles élections. Et on met Sylvain président avec Guillaume. Hein, on avait dit ça, déjà. Que vous aviez un programme, vous aviez plein d'idées, plein de... initiative, donc on va faire un putsch.
Ouais, il faudra des cotisations à dons et ça, c'est pas gagné.
Ouais.
Parce qu'en ce moment, ce sont ceux qui ont le plus de pognon qui vont se faire élire et qui vont aller sur les plateaux télévisuels.
Faut pas rêver.
C'est ça, faut pas rêver. Donc
mais si, faut rêver.
Après, je dis la politique américaine parce que je sais que Trump, il était absolument pas pour ça. Et Biden, il me semble qu'il était un peu plus. Hein. Il fait quoi là en ce moment, lui, par rapport à tout ça?
Est-ce qui, Biden, mis à part le retrait des troupes américaines en Afghanistan, il s'occupe pas de grandes choses en ce moment.
Il y a de plus en plus de morts en Amérique, aux États-Unis, du corona.
Ouais, mais par rapport à l'écologie, il était sorti de... Comment ça s'appelle, la COP21, Trump
Ouais, il est revenu dans la COP21, mais c'est pareil, on a 10 ans de retard.
Ouais, mais c'est déjà positif que les États-Unis reviennent là-dedans, quand même.
Oui, mais si c'est... Le rapport du GIEC prévoit qu'en 2030, on passera à 3 degrés au-dessus de ce qui devrait être fait pour éviter toute catastrophe naturelle. Et le truc, c'est que les États-Unis s'y mettent maintenant, mais ils vont avoir les lobbyistes qui vont les empêcher de travailler correctement. Et du coup, on va se retrouver avec des températures qui vont s'élever, le niveau de la mer qui va s'élever, des tempêtes de plus en plus fortes. Et c'est bien beau que les États-Unis s'y mettent, mais si c'est que du blabla, comme en France, eh bien, on n'arrivera à rien du tout.
Et alors, je vais faire un peu le contre-emploi de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, parce que j'ai lu aussi d'autres climatologues qui disaient que le climat de la Terre, depuis qu'elle s'était créée, avait toujours évolué, qu'il y avait eu des aires de glaciation, qu'il y avait eu des aires de réchauffement, qu'il y avait eu toujours des tempêtes, toujours des phénomènes extrêmes, des inondations, des ouragans, et que finalement, ce qui se passait en ce moment, c'était une évolution météorologique normale, et que effectivement, l'homme pouvait avoir une influence dans tout ça, mais que finalement, elle était minime.
Ce qu'il faudrait, c'est... En fait, dans les années 70, jusqu'au choc pétrolier, on a privilégié un maximum la voiture. C'était sous l'ère Pompidou, en gros. On a privilégié un maximum la voiture. Il y avait même des plans pour faire traverser Paris par des autoroutes, qui ont été abandonnés après. Mais on a fermé, je ne sais plus exactement si c'est les années 70 ou 80, les TGV, mais on a privilégié, par exemple, les TGV sur plein de petites lignes qui ont été fermées. Quand on voit avant... toutes les petites lignes de train qu'il y avait dans les années, je sais pas, jusque dans les années 50-60, c'était hallucinant. Le moindre petit village avait sa mairie, son église et sa gare, quoi. Et il faudrait qu'on réhabilite ces petites lignes-là, et que, parce que c'est pas en faisant augmenter les prix de l'essence qu'on fera baisser ça, parce que ça fait juste payer les plus pauvres, et les plus riches, ils peuvent s'en passer, quoi. Alors qu'il faudrait réhabiliter toutes les petites gares qu'on a fermées depuis des dizaines et des dizaines d'années pour
façon, la SNCF, ils vont privatiser des lignes.
Ouais, ben en fait, contrairement à ce qu'on croit, je suis pas spécialement pour la privatisation de la SNCF, mais quand la SNCF a été nationalisée, enfin les lignes de train ont été nationalisées, je crois que c'est en 37, ben ça a fermé énormément de petites gares en fait. Alors qu'avant, c'était un peu comme les autoroutes, il y avait les compagnies qui se partageaient, et c'était au contraire à celui qui avait le plus de gares. Et quand on regarde le maillage ferroviaire, il y avait beaucoup plus de gares dans les années 20-30, le moindre petit bled avait sa gare, et la SNCF, ils ont centralisé, ils ont fermé beaucoup de petits trucs. Et puis après, ça a été quand on a fait le tout automobile que ça a été une catastrophe, parce que là on a fermé plein de petites gares. Et s'il faudrait réhabiliter ces petites gares, c'est que comme ça qu'on sortirait de la voiture. Et enfin, dans les centres-villes, privilégier un maximum le vélo, la marche à pied, tout ça. Mais c'est pas en disant on prend pas des bains, il faut jamais de jetable et tout. Enfin, c'est bien gentil, mais on voit bien qu'avec le Covid, le jetable, on vit qu'avec ça maintenant.
Et en même temps, Sylvain, ce que vous dites, ça me renvoie. Je vois assez régulièrement le train qui fait Mazamé, la Bruyère, Castres passer. Il y a deux rames et il y a deux pèlerins dedans. Donc la logique a continué à faire tourner ce train-là. Alors, je ne dis pas qu'il faut l'arrêter, hein, mais je comprends qu'on puisse en arriver à fermer ces liaisons-là.
Oui, mais pourquoi ils font ça? C'est parce que le bus est gratuit. Le train est payant, mais le bus est gratuit pour aller jusqu'à Mazamé. Donc, les gens vont préférer prendre le bus que le train. C'est comme pour rapport au ferroutage. Le gouvernement a diminué toutes les aides pour le ferroutage, alors que j'ai regardé une vidéo où en Inde, avec quatre locomotives, ils faisaient passer je ne sais plus combien de porte-containers.
Oui, a priori, le ferroutage serait une vraie solution pour lutter contre la pollution de tous les poids lourds et de toute la navigation de marchandises.
Mais faire comme en Suisse, ou c'est de faire comme en Suisse où les camions sont interdits sur les routes suisses. Tout ce qui transporte des containers doit passer par le train.
Est-ce que c'est toutes ces petites voies ferroviaires qui s'arrêtent? C'est pas parce qu'il y a moins de monde en campagne. Est-ce qu'il faudrait pas repeupler aussi les petits villages?
Si, mais ça, c'est
revaloriser un petit.
C'est un des bénéfices du Covid, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre de la grande ville et qui ont envie d'aller vivre en campagne. Après, bon, le problème du train, c'est que c'est extrêmement cher. C'est pour ça qu'il faut décliner l'intervention de l'État. Parce que, comme je vous ai dit, on a les retours à 30 ou 35 euros Castres-Toulouse, c'est hallucinant. Mais oui, il faut que l'État intervienne pour qu'il y ait des trains très peu chers. Et effectivement, là, ce serait plus peuplé, parce qu'il y a des gens qui préféreraient prendre le train que leur voiture, parce que la voiture, il faut la garer, enfin, c'est un coût aussi. Il faut payer le métro, bon. Mais après, oui, le Covid, il y a beaucoup de gens, des néo-ruraux qui vont arriver, parce que maintenant, on n'a pas besoin d'avoir un débit extraordinaire pour faire du télétravail. Et la 4G, il y en a quasiment partout, on n'a pas besoin d'avoir non plus la fibre ou tout ça. Donc oui, ça c'est un truc plutôt positif. Malheureusement, ça ne fait pas baisser les prix de l'immobilier. Ça aussi, il faudrait qu'il y ait une intervention de l'État, parce que on pensait que ça allait faire baisser les prix de l'immobilier. J'ai vu que c'était reparti à la hausse. Enfin, oui. Ça n'en finit pas, quoi.
Après, on parle des circulations et tout ça. Moi, un truc qui me paraît aberrant, c'est le projet de l'autoroute Castres-Toulouse et au prix où ils veulent mettre l'autoroute, alors qu'on a une nationale qui est tout à fait correcte, qui permettait peut-être de faire des zones de dépassement et sans qu'il y ait des sociétés autoroutières qui s'en mettent plein les poches.
Oui, mais c'est comme tout le temps, c'est l'argent public qui fait des grands travaux et après c'est privatisé et de privé, ben ils s'en mettent plein les poches.
Moi, je suis passé samedi et j'ai pas vu de travaux. J'ai pas vu de travaux entre Castres et Verfeil.
Oui.
Je n'ai rien vu. Il n'y a même pas un peu de voix qui s'est fait, rien. Et après, pour le travail, la voiture, ils ont inventé le télétravail. Alors ça fait un gros truc. Hein.
puis y avoir des... Non, je ça, pense que ça peut être bénéfique, hein, le télétravail, c'est ce qu'on
dit. Oui, ça, ça fait baisser la pollution.
Oui. Et puis c'est ça, c'est les gens peuvent travailler de chez eux, donc de chez eux, c'est pas forcément dans les grandes villes.
Pas,
ils peuvent justement... Oui. Voilà. De plus en plus, juste un exemple, une ville comme La Bastide ou Rouyroux, qui n'est pas quand même une ville qui fait rêver, ouais. Bon, pardon,
oui,
il s'est vendu 27 maisons. 27 maisons, donc c'est quand même plutôt super. Quoi. Ouais. Pour un endroit comme ça, ça va être redynamisé.
Oui.
Bon, j'ai cet exemple-là, mais bon, il y en a d'autres.
Ils ont pris le temps de bien visiter les gens pour aller s'installer à La Bastide ou Rouyroux.
Ouais, je crois que...
Covid, je crois que ça aura fait peur. Bon, voilà, mais non, mais c'est un exemple comme les autres.
Oui.
Bon, il faut positiver quand même.
Ah, mais je positive, moi.
Bon, malheureusement, c'est la fin de l'émission. On est déjà passé à 31 minutes, donc on va lancer un Mickey 3D. Demain finira bien.
Et puis on se dit au revoir.
Au revoir,
au revoir. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Non mais attends, tu sais qu'il y a encore plein d'années à vivre sur la Terre et toi quand tu y seras plus, bah pareil, et ben, tu te demandes rien là.
Bah non, bah ça sera très bien, ça continuera comme ça a commencé il y a longtemps et voilà, c'est tout.
Est-ce que demain finira bien? J'ai que 10 ans, je n'en sais rien. Est-ce que les gens qui tirent sur les oiseaux ont-ils quelque chose dans leur cerveau? Je ne sais pas, je m'en fous. Il ferait mieux d'aller tous boire un coup. Et si la nuit, les chats sont gris, est-ce que les petits poissons rouges? Ont-ils l'impression d'être vivants? Est-ce que les gens qui vivent tout nus ont-ils un poil dans la main? Je ne sais pas, je m'en fous. On ferait mieux d'aller tous boire un coup. Et si la nuit, les chats sont gris, est-ce que les petits poissons rouges?